Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, une émission préparée par Julie Gacon, Fanny Richet, Céline Leclerc, Assassa Maquet, réalisée par Jean-Christophe Francis, à la prise de son ce soir, Yanis Judad. C'est une préoccupation de saison. Quel cadeau offrir à Noël ? Nous en avons trouvé un, particulièrement original, le détecteur de Dieu. Le détecteur de Dieu est une sorte de boussole qui vous sera fort utile en cas de manifestation surnaturelle. Prenons un exemple, il pleut et les gouttes de pluie dessinent l'image du Christ sur la vitre de votre bureau. S'agit-il d'un signe divin ? Eh bien, sortez votre détecteur et si celui-ci s'arrête sur « Yes », alors oui, vous êtes en présence de Dieu. Vous pouvez acheter cet objet sur un site internet américain. Alors, la démonstration est évidemment totalement absurde, mais après tout, aucune expérience plus sérieuse n'ayant jusqu'à aujourd'hui permis de prouver son existence à Dieu, ni même son contraire. Pourquoi ne pas s'en contenter ? D'autant que, tout bien considéré, est-il si important d'apporter une telle preuve que Dieu existe ou qu'il n'existe pas ? Ce qui compte avant tout, c'est l'usage qui en est fait. Or, il semble bien que cet usage est tout sauf en voie d'extinction, comme en témoignent les nombreuses analyses faisant état d'un retour du religieux dans la plupart des parties du monde. L'usage de Dieu, son utilité donc, voire son efficacité, c'est justement sur cette question que nous allons nous arrêter ce soir pour cette émission en partenariat avec Philosophie Magazine. À quoi Dieu nous est-il utile ? Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Et pour répondre à cette vaste question, j'ai le plaisir de recevoir Élie Barnavi. Bonsoir.
Bonsoir.
Historien, ancien ambassadeur d'Israël en France. Vous êtes le co-commissaire de l'exposition Dieu avec un X, mode d'emploi au pluriel, c'est au Petit Palais, c'est à Paris jusqu'au 3 février prochain. Un mot de cette exposition qui se veut une expo dépassionnée et pédagogique. Est-ce que ce serait un premier bon résumé ?
Oui, tout à fait. Enfin, c'est une exposition qui essaie de présenter dans une perspective thématique les pratiques religieuses, enfin, la manière dont les hommes, un peu partout, vivent leur religion au quotidien. Donc ce n'est pas une exposition qui interroge la question de la foi ou la théologie, voire l'histoire de la religion. Non, les pratiques religieuses. Comment cela fonctionne au quotidien.
C'est une exposition particulièrement œcuménique. Est-ce qu'elle a été compliquée à monter ?
Elle a été compliquée à monter parce qu'il y a un formidable... Enfin, si la thématique a été relativement facile à trouver, n'est-ce pas, ces portes par lesquelles nous faisons entrer les visiteurs, le foisonnement des pratiques est tel que c'est extrêmement difficile de choisir. Et donc, c'est dans cette tension entre ce qui est universel, parce que c'est une expérience universelle, et les pratiques qui, elles, sont particulières, que se situent et le livre et l'exposition. Et ça a été plutôt... Le choix était extraordinairement difficile à faire.
Voilà, vous mentionnez le livre, je n'en ai pas parlé. C'est le livre qui est donc associé à cette exposition, qui est publié chez André Versailles, éditeur. Alors, pour discuter avec vous ce soir, Élie Barnavi, Vincent Delcroix, bonsoir.
Bonsoir.
Philosophe et romancier, vous enseignez la philosophie à l'école pratique des hautes études. Votre dernier livre publié, c'était chez Flammarion, Chanter, reprendre la parole. Vous êtes également l'auteur, entre autres, d'un roman publié chez Actes Sud en 2004, La preuve de l'existence de Dieu. Ça vous fait sourire ? Vous l'aviez oublié, ce roman ?
Non, je ne l'ai pas tellement... J'aimerais bien pouvoir l'oublier, à dire vrai.
Mais, je n'en parlerai plus, alors.
Oui, voilà, c'était terminé. D'ailleurs, ce n'était pas un roman, c'était un recueil de nouvelles.
C'était un recueil de nouvelles, vous avez raison de le préciser. Allez, notre troisième invité, c'est évidemment Martin Legros, puisque nous sommes en partenariat avec Philosophie Magazine. Bonsoir.
Bonsoir.
Rédacteur en chef donc du magazine. Votre dernier numéro, celui qui couvre la période décembre 2012, janvier 2013, le dossier s'intitule « Dieu, une bonne idée ». C'est une question que vous posez. Alors, Dieu n'est pas une idée neuve, on peut même dire que c'est une idée qui a un certain âge. Pourquoi, finalement, est-ce que tous les trois, vous avez choisi de vous attaquer à cette idée ? D'ailleurs, peut-être que vous contesterez le fait que Dieu est une idée, mais en tout cas, est-ce qu'il y a encore des choses neuves à apporter sur ce sujet, Martin Legros ?
Mais l'angle que nous avons choisi, qui était « Dieu, une bonne idée ?», était en quelque sorte de sortir dans une affinité assez hasardeuse en réalité avec l'exposition, merveilleuse exposition de Elie Barnavi, une affinité, puisque notre idée c'est d'interroger Dieu non plus comme on l'a fait classiquement dans la philosophie, existe-t-il, n'existe-t-il pas, comment peut-on prouver son existence ou son inexistence, mais d'un angle un peu de biais en essayant d'interroger Dieu du point de vue de ses effets, d'un point de vue pragmatique. Le philosophe pragmatiste américain William James disait le vrai est ce qui est payant, et il voulait dire par là que finalement ne nous interrogeons pas sur la véracité des choses de manière abstraite, essayons de voir dans leurs effets. Et il est vrai qu'aujourd'hui on a le sentiment que le rapport à la croyance est peut-être en train de muter, c'est-à-dire que toute une série de gens qu'on interroge, on a recueilli une série de témoignages que Vincent Delcroix d'ailleurs commente avec beaucoup de finesse, qui témoignent de ce fait qu'aujourd'hui le rapport à la croyance est peut-être moins sur « je suis assis sur la certitude de Dieu » que davantage sur des pratiques qui sont interrogées par Elie Barnavi, des expériences, quelqu'un qui fait par exemple aujourd'hui le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle n'est pas nécessairement un croyant, quelqu'un qui aujourd'hui s'appuie sur Dieu pour surmonter un deuil ou une souffrance n'est pas nécessairement croyant, mais trouve dans une pratique religieuse ancestrale, trouve dans un rituel de quoi exprimer, mettre des mots, des usages sur un besoin existentiel. Un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle aujourd'hui, ça peut être un moyen de retrouver un contact avec soi-même, une assise dans l'existence à travers une épreuve, à travers un deuil, à travers, dans le judaïsme par exemple, la pratique, quelqu'un peut pratiquer de manière très très précise les rituels traditionnels sans se poser la question de l'existence de Dieu, peu importe que Dieu existe. Et donc nous avons voulu interroger cela, d'autant que dans la philosophie aujourd'hui, toute une série, une nouvelle génération pense la question de Dieu, peut-être indépendamment de son inexistence, du point de vue de la fécondité de ses effets rationnels. Qu'est-ce que Dieu nous permet de penser mieux et qu'est-ce que cette idée purement abstraite permet de penser? Et voilà, c'était un angle un peu de biais et nouveau qui nous semble à la fois en affinité avec ce qui se passe en philosophie et ce qui se passe dans la conscience commune.
Alors, est-ce que vous adhérez, vous, philosophe Vincent Delcroix, à cette nouvelle façon de penser Dieu? Est-ce que vous considérez que notre rapport à Dieu aujourd'hui est davantage pragmatique qu'il ne l'était auparavant?
En tout cas, l'approche pragmatique, elle nous renseigne sur beaucoup de choses de la manière dont les gens pratiquent effectivement la religion, ou ce que représente la croyance, mais justement, le terme de croyance est-il encore adéquat dans ce cas-là? Ce qui est bien, c'est précisément que ça remet en cause un certain nombre de catégories qui ont été forgées dans des époques où la religion ne ressemblait absolument pas à ce à quoi elle ressemble maintenant. C'est-à-dire qu'on a forgé des concepts philosophiques, notamment d'analyse, pour des religions instituées, dominantes, quasiment hégémoniques sur le social ou sur le politique, c'est plus le cas. Ce à quoi on a affaire, c'est à du religieux diffus ou à du bricolage ou ce que d'autres sociologues appellent du butinage ou des choses comme ça. Donc on est un peu dépourvu dans ces cas-là en philosophe traditionnel, pour essayer de saisir ce type de phénomène. Et effectivement, une approche pragmatique de ce point de vue-là, mais en fait, à dire vrai, cette approche pragmatique, elle date d'il y a quasiment 2 siècles en philosophie, à partir du moment où, avec Kant, avec Hume, par exemple, on dit, les preuves de l'existence de Dieu, elles n'ont plus aucune valeur, c'est-à-dire les preuves de l'inexistence non plus, c'est-à-dire que l'exercice qui consiste à prouver son existence ou son inexistence n'a strictement aucune raison d'aboutir, aucune chance d'aboutir. Donc concentrons-nous sur autre chose. À quoi sert l'idée de Dieu? Par exemple, comme idéal moral, comme idéal de la raison pure, pratique, chez Kant. Voilà.
Mais se poser la question de l'utilité de Dieu d'une certaine manière, est-ce que c'est déjà ne plus y croire ou est-ce que c'est encore y croire?
Ce qui est très étonnant, ça ne règle pas la question. Notamment dans les entretiens qui figurent dans le numéro de Philosophie Magazine, ce qui est très étonnant, je ne sais pas si on peut parler de duplicité, mais en tout cas, c'est une schizophrénie, j'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est frappant, c'est des gens qui à la fois sont conscients de ce qu'ils cherchent dans la religion, au sens où ils ne sont pas dupes, en fait, des effets, ou plus précisément de la recherche d'efficacité de la croyance elle-même. C'est-à-dire, c'est pas simplement dire, je veux pas savoir si Dieu existe ou s'il n'existe pas. Moi, je cherche un effet immédiat, pragmatique ou à long terme de la croyance. Et en même temps, je sais bien que je me sers de la religion comme consolation, etc. C'est cette espèce de caractère à la fois immédiat et réflexif en même temps qui est surprenant.
Elie Barnavi, est-ce que c'est aussi comme ça qu'il faut comprendre le titre de l'exposition dont vous êtes le commissaire, je rappelle, hein, duo au pluriel, mode d'emploi là aussi au pluriel, ce qui donne l'idée d'usage différencié selon les individus de ce qu'est la religion, et presque, on pourrait se dire qu'il pourrait presque avoir une approche consumériste de Dieu ou de l'idée de Dieu aujourd'hui.
Oui, vous me tendez une perche pour dire quelque chose qui me paraît très important, puisque tout ce débat que nous sommes en train d'avoir, comme d'ailleurs cette exposition et ce livre, comme la question que vous avez posée en début d'émission, ne sont concevables qu'en Occident. C'est-à-dire dans une société sortie de religion, hein, je prends l'expression de Marcel Gauchet, qui est une nouveauté absolue dans l'histoire des hommes. Ça, il faut bien le comprendre. Vous, je ne sais pas si je peux dire nous, enfin bon, allez, nous sommes ici, dans cette civilisation occidentale, la première civilisation dans l'histoire des hommes qui a appris à vivre sans religion et sans Dieu. C'est nouveau. Nous avons évacué Dieu de l'espace public. C'est une nouveauté absolue. Et donc, comme la religion ne s'en va pas, vous avez posé la question du retour du religieux. Moi, je pense que c'est une illusion d'optique. Il n'y a pas de retour du religieux là où la religion n'est jamais partie, c'est-à-dire sur l'essentiel de la planète. Il n'y a pas de véritable retour du religieux dans un pays comme la France. Il y a en revanche beaucoup de monde qui est venu ici avec Dieu. C'est ça qui se passe. Ce n'est pas que Dieu a fait retour chez les Français de souche, avec ou sans guillemets. Dieu est venu avec des immigrés venus d'ailleurs. Et donc, la question de relation avec la religion, la religion se pose de les chefs, mais de manière complètement nouvelle. Nous regardons ça de l'extérieur et disons, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, c'est d'où la légitimité toute nouvelle de poser la question des usages de Dieu. Une question qui, dans d'autres civilisations, dans d'autres cultures, qui sont restées imprégnées de religiosité, Et sacrilège. Alors, je sais bien que, alors en Occident, c'est vrai, ça n'a pas commencé hier, n'est-ce pas? Ça a fait un moment que les philosophes se posent la question de l'usage de la religion, notamment pour dire qu'il n'y a pas de morale s'il n'y a pas de religion, que ce soit Robespierre, n'est-ce pas, qui réinvente, essaie de réinventer une religion parce qu'il n'imagine pas que l'on puisse avoir une société qui fonctionne sans religion. Que ce soit Machiavel qui trouve que tout ça c'est des racontars et qu'il faut une religion pour tenir le peuple, autrement il fera n'importe quoi. Que ce soit Hobbes, enfin bon, la liste est longue des gens, des philosophes. Mais pour le commun des mortels, la question ne se posait pas. On ne vit pas en dehors de Dieu, c'est une impossibilité. Nous, on peut penser cette impossibilité-là.
Martin Legros, peut-être que ce recours à Dieu, plutôt que de retour à Dieu, peut-être que ce recours à Dieu aujourd'hui, il est permis parce qu'on a justement eu la possibilité de s'en détacher, qu'on n'est pas dans des sociétés où on est, de toute manière, où la question de la croyance et de l'acceptation de Dieu ne se pose pas.
Oui, pour aller dans le sens de ce qu'il disait Élie Barnaby, et en ajoutant une petite nuance, en effet, nous vivons dans des sociétés où Dieu s'est effacé de l'espace public, où ce n'est plus une évidence devant la mort de recourir à Dieu, où ce n'est plus une évidence où Dieu ne fait plus loi, tout simplement, c'est certain. Et votre exposition, de ce point de vue-là, remplit un office, je dirais, civil, c'est-à-dire que nous pouvons aller là nous acculturer à ce Dieu que nous ne connaissons plus et qui est pourtant effervescent dans le monde entier. Cependant, l'idée que ailleurs dans le monde, le Dieu classique n'aurait pas bougé, que c'est nous simplement européens qui vivrions dans une île d'agnosticisme ou d'athéisme, mérite d'être complété, parce que je crois que ce monde, en effet, où Dieu est une évidence, est chamboulé par le monde occidental et le monde européen. Et il me semble qu'on peut dire que les grandes religions, en tout cas aujourd'hui, sont traversées par un mouvement qui, en ce sens, les rapproche de nous. Il y a un philosophe qui a proposé, pour appeler cela, d'un terme qui s'appelle, il dit ça, c'est un peu compliqué, le terme d'individualo-globalisme. Et il veut dire par là que si on regarde les trois grandes religions monothéistes, elles sont de l'intérieur, toutes les trois travaillées par un mouvement de fond où on retrouve, en termes de dogme, des points communs. C'est-à-dire, le point commun qui regarde, c'est l'individuo-globalisme, c'est-à-dire c'est le souci de soi, le souci du monde et le souci d'une forme de certaine transcendance. Et il voit à l'œuvre une sorte de recomposition de l'intérieur même des religions, des dogmes. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est simplement que il me semble que le monde, le vaste monde, ait subi le choc de l'Occident, et que le fondamentalisme, par exemple, pour dire les choses nettement, peut être lu comme une réaction sous un mode individuel, sous un mode personnel, à l'Occident qui arrive violemment dans certaines régions du monde.
Mais là, vous prenez un peu le contre-pied de l'idée Martin Le Gros, selon laquelle c'est plutôt l'Occident qui subirait le choc d'un retour des religions sur la scène planétaire, et notamment de l'islam. Qu'est-ce que vous en pensez, Eli Barnavi, ensuite Vincent Delcroix?
Je pense que les deux sont vrais. Là je suis d'accord avec Martin Le Gros. Le monde n'est pas sorti indemne du choc de l'Occident, c'est évident. Donc il y a des intellectuels qui se posent la question. Cela doit travailler aussi, pas seulement les intellectuels, mais les masses croyantes dans leur tréfonds. Et je pense qu'il est vrai que le fondamentalisme, et c'est un mot d'ailleurs un peu ambigu, mais j'ai essayé de mettre un peu d'ordre là-dedans, fondamentalisme, intégrisme, bref, les formes agressives de la religion sont toujours une réaction à la modernité. Un exemple, si vous me permettez, l'ultra-orthodoxie noire dans le judaïsme. Hein, c'est ce que vous voyez avec très typé, avec des grands chapeaux et des papillons, tout cela. Eh bien, ce phénomène n'a existé qu'en Europe de l'Est, là où il y a eu un mouvement de lumière dans la version juive de la Haskalah, et donc le pôle religieux s'est raidi à créer cela. Vous n'avez pas cela en Afrique du Nord, où il n'y a pas eu de Haskalah, c'est comme ça que s'appelle en hébreu les lumières juives, et où le choix était resté à l'intérieur de la communauté, mais une communauté tout compte fait assez libérale du point de vue religieux, ou en sortir complètement, devenir français en quelque sorte. Et donc, c'est la réaction à la modernité qui a produit cela. Et curieusement, vous avez aujourd'hui en Israël une ultra-orthodoxie noire séfarade, impensable ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'en Israël, ils se sont heurtés à la modernité et que le pôle ultra-orthodoxe, c'est encore une loi de religion, a fini par absorber, par attirer le pôle le plus faible. Donc je crois que les deux sont vrais. En Occident, vous subissez le retour, entre guillemets, du religieux, avec des masses de gens qui arrivent, qui sont imprégnés de religiosité, après que le monde a subi, effectivement, le choc de la modernité qui est toujours arrivé sous les espèces occidentales et qui a provoqué, évidemment, un choc en retour. Et le fondamentalisme, de ce point de vue-là, est une action identitaire, je dirais.
Mais alors là, dans ces questions-là, on est davantage dans le côté néfaste que peut avoir Dieu ou l'idée qui lui est associée que son utilité, Vincent Delcroix.
Oui, enfin, je voudrais revenir sur cette idée parce que de retour, moi aussi, c'est un terme qui m'agace particulièrement. D'abord, il faudrait se garder d'uniformiser aussi la vision de l'Occident lui-même. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose à voir entre, de ce point de vue-là, c'est-à-dire du point de vue de la question religieuse, entre la société française et la société américaine, par exemple, ou le politique français et le politique américain. C'est là, pour le coup, il y a une présence massive du religieux. Bon, et pourtant, on est bien dans une société ultra-occidentalisée, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc il faut faire attention aussi de ne pas opposer trop rapidement un Occident sécularisé ou en voie de sécularisation radicale, et puis d'autres pôles planétaires où, au contraire, la religion traditionnelle survivrait.
C'est l'Europe, en fait, l'Europe occidentale.
Voilà, mais même l'Europe, il faudrait la restreindre de plus en plus. Donc, ce qui prouve bien qu'en réalité, c'est des images qui fonctionnent assez mal. Mais c'est aussi le fait que, si on parle de retour du religieux, c'est qu'on a été bercé d'une idée qui vient des Lumières, qui vient et qui s'est développée au XIXe siècle, qui avait une concordance systématique entre progrès de la raison, c'est-à-dire en fait progrès des sciences, et destruction de la croyance religieuse. Bon, mais ça, c'est une idéologie aussi. On s'est imaginé que parce que la science se développerait, la religion s'éteindrait et qu'on était de toute façon à l'ère de la destruction inéluctable. C'est-à-dire, on est bercé par des philosophies de la religion, des philosophies de l'histoire, en réalité. Ce qu'on voit maintenant, c'est qu'effectivement, ces philosophies philosophie de l'histoire ne tiennent pas, qu'effectivement la raison peut continuer à se développer sans pour autant qu'elle détruise la croyance religieuse. Simplement, elle la modifie. Elle la modifie considérablement et effectivement, on a du mal à se repérer là-dedans. Alors évidemment, il y a des réactions effectivement ultra-violentes, mais on a plutôt l'impression que c'est en réalité la raison qui produit elle-même c'est ce type de réaction violente. Donc je voudrais vraiment insister sur ce caractère plus complexe de la sécularisation aussi dans nos sociétés occidentales.
On est peut-être là face à une des manifestations de l'utilité de Dieu, à savoir son utilisation. Martin Legros, à des fins politiques. On recevait il y a une quinzaine de jours de cela Georges Cormes qui a publié un livre à la découverte qui s'appelle « Pour une lecture profane des conflits » et qui, lui, justement, se réfère à la philosophie des Lumières en disant qu'il faut y revenir puisqu'aujourd'hui, on instrumentalise au contraire le religieux pour en faire une grille de lecture permanente et quasi exclusive de l'ensemble des conflits dans le monde.
Oui, tout à fait. Je trouve qu'on est totalement coincé sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il est quand même réglé en Europe occidentale, et je dirais même jusqu'aux États-Unis, l'idée de la loi de Dieu. Il me semble que Dieu, même aux États-Unis, Dieu ne fait plus loi, en ce sens que nous ne cherchons plus la justification de ce qui nous tient, de ce qui nous lie, de ce qui fait société dans Dieu, en Occident en tout cas.
Et pourtant, les références à Dieu sont omniprésentes, y compris sur le terrain politique aux États-Unis.
Oui, tout à fait. Et pourtant, c'est pour ça, d'où l'ambivalence. Et pourtant, par exemple, moi, je ne vois absolument aucun problème à dire que nous sommes redevables d'un héritage judéo-chrétien et que les grands principes qui ont fait l'Occident, l'égalité, la singularité de l'individu, l'idée d'une histoire propulsée dans un sens, ont une origine religieuse.
L'idée de la révolution.
Donc nous sommes tout citoyen aujourd'hui peut reconnaître, si athée soit-il, son inscription dans une culture religieuse, et je dirais même a envie de connaître mieux cette origine religieuse de sa propre histoire, dont il a été coupé brutalement dans une partie de l'histoire européenne. Et en même temps, je crois qu'il y a une angoisse très très forte par rapport en effet à une série de lieux du monde où l'idée de tout de même restaurer Dieu en source de loi et source de pôle de référence dans des situations conflictuelles fait retour. Et je trouve que cette ambivalence-là, nous sommes tous tiraillés entre ces deux difficultés.
Est-ce que d'une certaine manière, on pourrait dire, Elie Barnavi, que nous sommes redevables à Dieu d'un certain nombre d'idées qui ont permis de structurer nos sociétés? Est-ce que, par exemple, sur le plan même de la construction politique, Dieu a eu une utilité?
L'Occident est né du conflit entre Dieu et César, et il n'y a aucun doute dans mon esprit que nous avons été façonnés par des siècles de civilisation qu'on appelle aujourd'hui judéo-chrétienne, c'est un terme qui me paraît d'ailleurs assez correct, et que toutes les valeurs qui sont celles de la démocratie libérale sont des valeurs laïcisées de ce que l'Occident a été autrefois. Ça me paraît une évidence. Et c'est en raison de cette évidence qu'en son temps, j'avais pris position publiquement, moi qui ne suis ni chrétien ni croyant, j'avais pris position en faveur de l'inscription des racines chrétiennes ou judéo-chrétiennes de l'Europe dans le préambule du traité Mornay, du traité constitutionnel européen, en me disant précisément que si on fait fi de l'histoire, si on lui tourne le dos, on ne risque pas de créer quelque chose de bien grand. Et dans une polémique d'ailleurs assez intéressante avec François Bayrou, qui lui est chrétien et croyant, et lui il était contre. On retrouve là cette espèce de mythe laïque qui est très français et qui non seulement a coupé l'état de la religion, ce qui est formidable sort de civilisation, je m'empresse de le dire, mais il a coupé aussi les gens du savoir religieux, ce qui me paraît déjà plus problématique. Alors, vous posez la question de l'utilisation de Dieu. Oui, nous retrouvons ici et là, et de plus en plus, des relents de guerre de religion. Vous savez que c'est mon métier universitaire. Et c'est avec terreur que je constate que Dieu est de nouveau sur le champ de bataille, dans la tête des gens pour dans des combats politiques. Et ce qui a été cette formidable avancée qui a été qui a été la neutralisation de la politique, justement, aux États-Unis comme ailleurs. D'ailleurs, de ce point de vue-là, les Américains ne sont pas différents. Il y a une muraille d'acier entre l'État et les églises. C'est vrai que le discours est en plein de religiosité, mais nous sommes dans un espace politique totalement sécularisé. Eh bien, ailleurs, ça ne se passe pas de cette manière. Et cet ailleurs arrive ici. C'est ça qui me paraît effrayant. Il est urgent de réaffirmer ces valeurs. Moi, quand j'ai entendu des histoires sur la redéfinition de la laïcité comme laïcité positive, en faisant mine de croire que la laïcité d'avant était négative, je me suis dit, voilà, là, s'il commence comme ça, ça va mal se terminer. La laïcité est ce qu'elle est, elle est parfaitement ce qu'elle est, elle n'est pas agressive, n'est pas nécessairement athée, elle n'est pas dirigée contre la religion. C'est une modalité juridique et civique pour organiser l'espace public de telle manière que la religion puisse coexister et ne pas se sauter à la gorge. C'est ça la laïcité, en fait. Et de ce point de vue-là, la France a fait du tout bon travail.
Pour rester sur la question de ce que peut produire et la religion et Dieu, il y a un texte dans le livre que vous publiez, Élie Barnavi, qui est signé par Régis Debray. Régis Debray qui, dans un précédent ouvrage, rappelait que le christianisme est notamment à l'origine de la fraternité. Vincent Delcroix, est-ce que le recours à Dieu permet aujourd'hui de produire de nouveaux systèmes, de nouveaux systèmes sociaux, de nouveaux systèmes politiques, ou bien est-ce que on n'assiste pas plutôt à une sorte de repli d'une certaine manière?
Je pense qu'il ne produit rien de nouveau, non. En revanche, il ait fait ses preuves efficaces sur le terrain politique et social. Là aussi, c'est assez ambivalent, parce qu'effectivement, nous leur devons un certain nombre de valeurs qui nous occupent encore maintenant, un certain nombre de structures politiques. C'est aussi ces religions qui les ont détruites et qui les ont menacées aussi. Hein.
Peut-être que quand on parle aujourd'hui, ça fait déjà quelques temps, de fin d'idéologie, est-ce qu'on peut le lier à une sorte de perte aussi du moteur que serait la religion pour produire aussi de nouveaux...
Oui, mais moi je suis sensible aussi à cette espèce de recours justement aux religieux, avec cette idée que justement le religieux, lui, a fait ses preuves. Donc, que ce soit un niveau individuel ou un niveau communautaire ou historique, c'est-à-dire que si vous êtes un peu religieux, vous vous conduisez mieux, par exemple, vous respectez un certain nombre de valeurs, c'est une conduite dans la vie, etc. Comme si la raison par elle-même, c'est-à-dire sans la religion, comme si la raison autonome n'était pas capable de fournir par elle-même des valeurs, comme si elle n'était pas capable de garantir un certain nombre de libertés, comme s'il fallait finalement quelque chose d'autre que la raison autonome, que la raison des Lumières, pour être sûr de bien cimenter le corps social, par exemple. Moi, je me méfie beaucoup de ce genre de choses. Il y a toujours quelque chose comme le signe d'un affaiblissement, justement. Et bien sûr, parce que c'est la raison autocritique, il y a un affaiblissement de la raison, de ce point de vue-là, aussi d'un point de vue épistémologique, c'est-à-dire aussi... consiste à dire, finalement, on peut tolérer n'importe quelle croyance, même les croyances les plus absurdes, même les croyances... Finalement, nous n'avons pas à en juger, puisque les croyances adhèrent aux personnes et qu'il faut respecter les personnes, absolument. Mais en même temps, on n'est plus en droit de juger, de même que la raison peut plus non plus fonder un certain... ne pourrait pas, par elle-même, fonder un certain nombre de valeurs. Résultat, on a effectivement cette idée que toutes les valeurs qui sont les nôtres sont des valeurs sécularisées, sont des valeurs laïcisées. Il y a eu un débat dans les années 50 sur la légitimité des temps modernes, justement, qui portait le conflit, justement, sur cette idée que nous vivons sur des valeurs religieuses sécularisées. Autrement dit, que l'idée d'une raison autonome qui produirait ces valeurs est une pure illusion. Voilà.
Alors, Martin Legros, sujet du bac, la raison autonome est-elle une pure illusion? La raison peut-elle se passer absolument de Dieu? Sujet du bac philo, je précise, mais tout le monde aura compris.
A priori, oui, les lumières modernes sont censées avoir réglé leur compte à Dieu. Même si, par exemple, quand on voit quelqu'un comme Emmanuel Kant, il laissait tout de même, il avait réglé la question théorique, mais que ce soit dans la morale ou même dans la science, il disait l'idée de Dieu reste cette idée régulatrice, et quand on y pense, on la partage tous, cette idée-là, c'est-à-dire l'idée que, en quelque sorte, le monde soit rationnel, c'est un présupposé métaphysique qui habite toute démarche scientifique, tout de même tout chercheur dans son laboratoire qui est en train de faire une expérience, présuppose que le monde n'est pas un chaos, un monstrueux chaos hasardeux, mais qu'il est régi par des lois qui sont concordantes et précises. C'est une idée métaphysique, cette idée-là. Rien ne nous... Elle ne s'impose pas par d'expérience. C'est un postulat métaphysique. Et donc, il y a une dimension religieuse. Ça ne veut pas dire, pour autant, si on admet ça avec Kant, qu'on va accepter que la version du Big Bang sur l'origine de l'univers soit récupérée par toute une série aujourd'hui de... aux États-Unis, c'est très puissant, mais ça commence à surgir en France, de théologiens qui disent « Ah, ben le Big Bang, c'est le signe qu'il y a une création. » Et donc, derrière la création, il y a un temps zéro, et donc il y a Dieu, et donc Dieu valide la science.
Oui, parce qu'il y a un témoignage très intéressant dans Philosophie Magazine d'un astrophysicien, Marc Lachaise-Ray, qui parle de cadeaux empoisonnés que fait la religion à la science aujourd'hui, voilà. En disant c'est presque pire que ce qu'on a fait à Galilée aujourd'hui, ce qu'on fait aux théoriciens du Big Bang.
Science et religion sont aujourd'hui à front renversé par rapport à l'époque glorieuse de la Renaissance. À la Renaissance, c'était le conflit. La religion était très méfiante vis-à-vis de la religion, et c'était un conflit âpre. On se souvient du procès de Galilée. Aujourd'hui, c'est à front renversé, c'est-à-dire que l'Église tend à récupérer tout ce qu'elle peut, et avec beaucoup de curiosité et d'appétit, tout ce qui se dit de la science, pour faire de ce qu'ils appellent le concordisme, c'est-à-dire voir tout ce qui concorde dans ce que dit la science avec ce qu'ont dit les grandes traditions religieuses.
On a même parlé de la particule énormément. De Dieu cet été à propos du boson de Higgs.
Voilà. Et donc évidemment, ça c'est très problématique. Reste que je trouve qu'il est fécond de continuer à avoir une réflexion métaphysique dans la science, mais ça peut être aussi en morale, ça peut être... Qu'est-ce que c'est que la vie ? Est-ce que la vie, c'est pas, on ne nous met pas en rapport avec quelque chose qui nous dépasse. Et je ne dis pas que la religion a une réponse à cette question-là, mais elle l'a traitée dans des termes qui permettent peut-être de mettre en scène, de penser cela, alors que la raison sèche des lumières fermait le chemin, en quelque sorte. Et donc, je trouve, il me semble que, moi qui ne suis pas quelqu'un de religieux, je trouve qu'il y a aujourd'hui toute une série de domaines où il y a une fécondité à réouvrir les concepts, à réouvrir les idées, avec un esprit de laïcité absolue, bien entendu.
Alors, est-ce qu'il y aurait une bonne façon, Élie Barnavi, de circonscrire Dieu, de façon à ce qu'il soit utile sans être nocif ?
Dans cette expression de raison sèche de lumière, je devine le vieux complexe de l'incroyant par rapport à ceux qui sont soutenus par la foi. La raison de lumière n'était pas nécessairement sèche, mais ce qui est vrai, et c'est là que je rejoins votre question, c'est qu'il est extraordinairement difficile de créer avec la raison raisonnante du lien social. C'est là que Dieu revient, s'insinue dans les interstices entre les individus, assuré de leur raison souveraine. Et c'est vrai que cette raison-là a du mal à fabriquer la transcendance. Or, l'individu, nous l'avons appris, nous le savons, on peut vivre sans transcendance. Les collectivités, très difficilement. Et donc, il faut quelque chose. La France était parfaite pour cela. Elle a inventé la République, qui a été une espèce de religion de substitution. On a vu ce que ça fait, les grandes religions de substitution au XXe siècle, le grand totalitarisme. Aujourd'hui, on n'a plus rien de tout ça. Tout s'est effondré. Et donc, c'est vrai qu'avec des individus, avec leur raison individuelle, il est difficile de fabriquer du lien social.
L'individu peut vivre sans transcendance. Une société aura du mal à vivre sans Dieu, même des sociétés non-croyantes. On pense évidemment au régime communiste, l'URSS, d'une certaine manière. C'est aussi inventer ses propres dieux ou son propre dieu.
Oui, c'est religion séculière. Mais en fait, à dire vrai, là aussi, c'est un vieux problème. Moi, ça me fait tout à fait penser au problème qui était discuté de façon caractéristique à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe, ce qu'on appelait le problème de l'athée vertueux. Est-ce qu'on peut faire de la société sur des athées? Voilà. Est-ce qu'on peut se fier à un athée, tout simplement ?
Alors, quelles étaient les réponses apportées à l'époque ?
Par exemple, il y a des réponses extrêmement surprenantes de ce point de vue-là. Vous ouvrez le dictionnaire philosophique de Voltaire, à l'article athée-athéisme, qui discute de ce problème et qui finit par dire non, en fait, il vaut mieux de la religion. Il vaut mieux de la religion parce que ça cimente davantage la société, parce qu'un athée, par exemple, on ne peut pas se fier à sa parole. On n'est pas sûr qu'il tiendra son serment. Et puis, c'est cette phrase célèbre de Voltaire qui dit « Je préfère que mon horloger croie en Dieu, j'en serai moins volé ». C'est un usage extrêmement pragmatique, politique.
Ce qui est faux, évidemment.
Ce qui est évidemment faux.
Vous avez eu des mésaventures avec vos horlogers.
Vous serez mieux volé.
Martin Legros.
Oui, mais je trouve que c'est aussi le fait qu'on peut... Il faut défendre la possibilité de s'intéresser intellectuellement aux métaphysiques et à Dieu sans adhérer en termes de croyance. Par exemple, moi je trouve qu'il y a un débat passionnant qui a surgi au lendemain de la Shoah. Quelle pensée de Dieu peut-on avoir face à cet événement? Et un philosophe célèbre, Hans Jonas, a dit, ben voilà, on ne peut plus penser Dieu de la même manière après Auschwitz. L'idée classique de Dieu, c'était un être bien omniveillant, bienveillant, omnipuissant et omniscient. Il avait connaissance de cet événement, il a pu l'empêcher puisqu'il était omnipotent et il était bienveillant. Ces trois catégories fondamentales de Dieu ne sont plus possibles après la Shoah. Moi qui suis athée, je trouve qu'il est intéressant qu'un philosophe essaie de reconfigurer son logiciel théologique, et je trouve ça stimulant philosophiquement. Comment est-ce qu'il faut penser un Dieu vulnérable, un Dieu qui se serait retiré de sa création pour la laisser aller au pire éventuellement? Moi qui n'adhère pas en termes de croyance, je trouve que intellectuellement, voilà un concept intéressant.
Nous parlons de Dieu ce soir, nous posons la question de son utilité. Bonsoir Julie Gacon.
Bonsoir.
C'est l'heure de votre contrepoint. Y a-t-il un personnage plus utile ou plus inutile que Dieu? Oui, peut-être le diable.
Eh bien, d'où viendrait le mal s'il n'existait pas le diable? Les religions ne peuvent pas se passer du diable, les religions monothéistes, en tout cas qui postulent que Dieu est infiniment bon et ont bien besoin de désigner un responsable pour tous les péchés. Alors d'ailleurs, bien malin est celui qui saura convaincre que Satan est lui aussi une invention de l'esprit. La meilleure ruse du diable n'est-elle pas de faire croire qu'il n'existe pas, écrivait Baudelaire. Alors c'est vrai qu'après avoir mené la chasse au diable à grand bruit, les religions se font plutôt discrètes aujourd'hui à son sujet, mais le diable reste un personnage bien commode. L'historien Georges Minois lui a consacré un « Que sais-je » au puf.
Il faut bien trouver quelque part une façon d'introduire le mal dans le monde, puisque le mal, visiblement, il existe. Alors c'est pour ça d'ailleurs qu'au cours dans l'histoire des religions monothéistes, très souvent, il y a eu un courant manichéen, c'est-à-dire que ce diable, on en a fait un être quasiment aussi puissant que le dieu du bien. Le manichéisme est une tentation permanente et qu'on voit très bien ressurgir aujourd'hui. Sur le plan politique, on se souvient de l'ère Reagan, hein, de l'empire du mal, et on situe les combats politiques dans un cadre quasiment cosmique, le grand combat entre le bien et le mal. Enfin, la figure du diable, elle est aujourd'hui, je dirais, plus populaire dans les discours séculiers que dans le discours ecclésiastique. Mais dans le discours séculier, c'est une façon de parler, c'est une image, on diabolise l'adversaire, mais bon, encore une fois, c'est purement et simplement une image. On n'imagine pas l'existence d'un être réel. Alors donc, il se fait extrêmement discret. Il reste comme une menace à l'arrière-plan, malgré tout, hein, dans les religions monothéistes, en particulier la religion chrétienne, sont très habiles à manipuler les menaces et le doute, hein, en laissant planer à l'arrière-plan, hein, l'existence de cet être malfaisant.
Alors, je ne sais pas, Elie Barnavi, si le 21 décembre prochain, c'est Dieu ou le diable qui sera à l'œuvre, mais vous n'êtes pas sans savoir que c'est la fin du monde. C'est ce qui est annoncé un petit peu partout ce jour-là. Est-ce que, en ce jour de fin du monde, le recours à Dieu pourra, vous notamment, vous être d'une quelconque utilité?
À moi, hélas, non. Et j'envie beaucoup les croyants, parce que franchement, c'est quand même utile, c'est assez consolant d'avoir une présence comme ça qui vous sauve de l'absurdité de la mort, de la fin du monde, du mal. C'est un principe comme ça. Moi, personnellement, je vais avoir du mal et je le regrette profondément.
Bon, je le regrette aussi. On essaiera de se revoir ce jour-là, peut-être pour fêter ensemble donc notre disparition à tous. Vous savez qu'il y aura beaucoup de choses dans les médias qui vont y être consacrées. Nous essaierons de résister à la tentation et de ne pas faire d'émission sur ce sujet. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup à tous les trois. Elie Barnavi, donc, je rappelle que l'exposition dont vous êtes le commissaire, c'est au Petit Palais à Paris jusqu'au 3 février avec le catalogue d'exposition chez André Versailles éditeur. Dieu, mode d'emploi. Vincent Delcroix, je rappelle les références de votre dernier ouvrage, publié cette année chez Flammarion, Chanter, reprendre la parole. Et puis le dernier numéro de Philosophie Magazine, dont vous êtes le rédacteur en chef, Martin Legros, Dieu, une bonne idée, point d'interrogation. C'est en kiosque pour encore un certain nombre de jours. Vous savez que vous pouvez poster vos commentaires, puisqu'il ne veut pas dire grand-chose, c'est Julie Gacon. Vous pouvez poster vos commentaires sur notre site, réécouter l'émission pendant 1000 jours, la télécharger pendant un an. Demain, la question sera « Les Égyptiens et les Tunisiens vivent-ils mieux aujourd'hui ?» Et tout de suite, c'est le rendez-vous avec Laurent Goumard. Bonsoir.